Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nous, on adorait pouvoir tout regarder, mais malheureusement, on reçoit tellement de podcasts, il faut s'imaginer qu'on en reçoit à peu près 20 000 par mois.
Au niveau global, pas au niveau national.
Au niveau global, ouais, bien sûr. Toute la question, c'est comment est-ce qu'on traite cette masse, comment est-ce qu'on peut détecter les bons contenus. Donc nous, on a mis en place un outil pour essayer de... déjà pour voir ce qui arrivait et filtrer un petit peu en fonction de la langue, du pays d'origine, qui d'ailleurs sont souvent des métadonnées qui ne sont pas bien renseignées dans les flux RSS. Je passe un message aux podcasteurs au passage. Donc voilà, après on peut aussi filtrer avec des mots-clés, ce genre de choses. Donc, par exemple, si on est à la recherche, de podcasts de méditation, par exemple, on peut aussi taper des mots-clés pour un peu filtrer tout ce catalogue entrant.
Donc des bonnes descriptions de podcasts du SEO, quoi, finalement.
Oui, c'est ça. Soit en regardant les mots-clés, soit en regardant la description. Donc bon, ça peut nous permettre de faire un peu des petits filtres. Mais sinon, c'est vrai que on a tellement de volume que c'est pas possible de tout relire et puis surtout de tout écouter, parce que c'est bien déjà de lire un pitch, mais derrière il faut aussi, avant de le mettre en avant éditorialement, on aime bien l'écouter quand même pour être sûr que le contenu est de qualité, qu'il correspond bien à sa description. Bon, on peut avoir des surprises parfois. Et puis c'est bien aussi de se renseigner un petit peu sur la ligne éditoriale, donc de regarder par exemple nos pages d'accueil, les thématiques qu'on traite. Si c'est pour un pitch de production original, de regarder ce qu'on a produit jusque-là. Déjà, ça peut donner des bons indices sur est-ce que mon podcast pourrait effectivement s'aligner dans cette démarche éditoriale, ou est-ce que c'est complètement hors champ, quoi.
Génération podcast.
Génération podcast.
Génération podcast.
Génération
podcast.
Génération.
Génération podcast.
Podcast.
Génération podcast.
Génération podcast.
Salut, salut et bienvenue dans Génération podcast, le podcast qui parle de podcast. Aujourd'hui, nous filons discuter podcast, donc, au siège français de la plateforme de diffusion de podcasts Deezer, en compagnie de Camille Sauzière, qui est Global Podcast Lead, catalogue et éditorial. Vous n'êtes pas sûr de savoir en quoi ça consiste ? Pas de panique, Camille vous explique tout dans un instant. Vous venez d'ailleurs de l'entendre, Camille lève le voile dans cet épisode sur les processus de curation d'une plateforme de podcast telle que Deezer et vous livre de nombreux conseils pour améliorer la découvrabilité de vos créations. Avec Camille, on évoque également le parallèle entre sa carrière et l'évolution de Deezer, qui de plateforme de musique est devenue, entre autres choses, une plateforme de tech qui produit aussi des podcasts. Ah, et sinon, moi c'est Anne-Fleur Andrely, je vous parle depuis le Colorado aux États-Unis, je suis archi passionnée de podcasts et je suis très heureuse de vous livrer ma conversation avec Camille Sauzière.
Moi c'est Camille Sauzière, je travaille chez Deezer depuis maintenant un peu plus de 4 ans sur le podcast. Je travaille dans l'équipe globale, donc qui est en charge un peu de chapeauter toute la stratégie podcast dans le monde, voilà, avec les marchés locaux, et surtout de coordonner tous les projets éditoriaux et aussi les projets avec les autres équipes centrales, comme le produit, la tech, la data, le marketing, voilà. Un peu de tout.
On va revenir sur un peu tout ça justement dans un instant. Avant de le faire, je t'aurais bien demandé, avant toi en fait de t'intéresser au podcast professionnellement, tu étais surtout côté musique.
C'est vrai.
Est-ce que tu te souviens de comment est-ce que tu as opéré ce shift vers le podcast, que ce soit personnellement ou professionnellement d'ailleurs ?
Effectivement, je suis arrivée du côté de la musique, mais encore même avant ça, j'ai même eu une petite expérience dans le cinéma. Donc j'ai toujours été assez sensible au contenu de manière générale, à la production de contenu. Et j'avais envie en fait d'aider un catalogue finalement à trouver son public. Et en fait, je suis arrivée dans la musique parce que je trouvais que tout ce qui se passait du côté des plateformes de streaming était super excitant, parce qu'elles innovaient et elles réinventaient une certaine façon d'accéder à un contenu. Et c'est ça qui m'a intéressée en premier lieu. Et donc, c'est pour ça que j'ai rejoint Deezer. Et après, quand j'ai vu que ce poste en fait se libérait sur le podcast, moi j'écoutais plein de podcasts. Je voyais que c'était aussi un petit peu le nouveau format qui émergeait. Il y avait beaucoup de choses à construire aussi du côté de l'écosystème, du côté du produit. Donc c'est ça qui m'a attirée. Donc c'est l'aspect contenu, mais aussi l'aspect un peu finalement innovation, quelque chose d'assez neuf où finalement on a aussi une grande liberté pour créer.
Mais en fait, on peut presque tracer un parallèle en fait avec l'entreprise, c'est-à-dire que Deezer aussi a commencé par la musique, je crois pas le cinéma, mais je peux peut-être me tromper. comment est-ce que Deezer en fait en est venu aussi en fait à s'intéresser au podcast? Tu pourrais nous retracer un peu l'historique?
Oui, alors ça a commencé avant moi quand même. Hein. J'ai pas été non plus la pionnière du podcast chez Deezer, même si quand même j'ai beaucoup développé dans l'offre en tout cas dans le monde. Mais Deezer est arrivé sur le podcast à partir de 2015, quelque chose comme ça. Et à vrai dire, c'était un peu comme une équipe, un peu comme un labo en fait, qui expérimentait ce nouveau contenu, qui commençait à émerger à la fois au Royaume-Uni, en Allemagne, en France. Ça a commencé un peu comme ça. Au début, c'était très axé sur les verticales d'information, de sport. On a eu des partenariats aussi avec des entreprises comme Talksport ou des choses comme ça qui nous ont mis un petit pied dedans. Et puis après, au fur et à mesure, on a élargi les verticales, on a commencé à faire de la production originale et voilà, et le marché du podcast s'est développé.
Et les productions originales, du coup, comme tu dis que tu travailles dans l'équipe globale, donc internationale, forcément, nous, on connaît surtout le travail en France. Vous avez des productions originales dans tous les pays du monde?
Non, pas tous les pays, quand même pas.
Enfin, dans tous les pays où vous êtes ou...
Non, oui, effectivement, on a produit, on produit en français, évidemment, on produit en allemand également. Ça, c'était les deux premiers territoires. On a également produit en anglais pendant un petit moment, puis on a finalement arrêté. On produit également en portugais au Brésil, parce que le Brésil, c'est un gros marché pour nous. Et on a aussi produit un moment en espagnol et en arabe quand on avait lancé, quand on a développé l'offre. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 4-5 ans, l'offre podcast était disponible que sur quelques territoires. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne... le Brésil, mais il n'y avait pas encore l'Amérique latine, il n'y avait pas encore le Moyen-Orient, l'Afrique. Et donc, en fait, on a commencé comme ça à ouvrir d'autres marchés. Et en ouvrant ces nouveaux marchés, en recrutant des nouvelles équipes, on a commencé aussi à produire un petit peu pour aussi différencier notre catalogue.
Toi, ça fait partie en fait de ton travail, donc au niveau des équipes internationales. Est-ce que tu pourrais nous décrire, alors je ne sais pas si on peut parler de journée type, mais en tout cas, tu vois, de les projets sur lesquels tu travailles pour qu'on comprenne bien.
C'est vrai qu'en plus, j'ai été amenée à changer un peu de casquette plein de fois. Donc, je comprends que ça paraît assez clair. Mais oui, la journée type, je pense que le matin, on regarde tous les audiences, les résultats.
Tous les jours.
Oui, d'accord. Tous les jours, ouais. L'audience sur les podcasts.
Qu'est-ce que vous cherchez dans les audiences?
Les utilisateurs actifs, donc c'est ceux qui ont fait au moins un stream. Donc une écoute de plus de 30 secondes chez nous. C'est ça le standard. Donc on regarde ça. Et puis si on note un pic, on essaie de savoir d'où est-ce qu'il vient. Est-ce que c'est lié à un podcast en particulier? Une nouveauté, par exemple, qui a explosé. C'est le cas, par exemple, en ce moment au Brésil. On a un podcast de faits divers, d'enquête plutôt. D'enquête sur un fait divers qui fait un carton, un vrai phénomène sur les réseaux sociaux et du coup ça nous a amené un gros pic d'audience. Donc soit ça vient d'un podcast, soit ça vient d'une opération éditoriale qu'on a pu mettre en place. Donc les opérations éditoriales, c'est par exemple on va faire une page spécialité où on va choisir un petit peu les thématiques, les podcasts qu'on veut mettre en avant pour l'été. Et donc ça, on va le coordonner de manière internationale. Donc la page, elle va être localisée pour la France, localisée pour l'Allemagne, etc. Donc, on va regarder aussi les résultats sur ce type d'opération pour savoir si c'est ça qui a pu amener un pic. Et puis après, on fait aussi, bien sûr, des actions marketing. Donc, on utilise les réseaux sociaux, le CRM. Et donc, on va aussi analyser ça pour savoir si ça peut expliquer les pics de
neige. D'accord.
Et après, le dernier volet, évidemment, c'est la production originale. Ça peut aussi driver des beaux pics d'audience. Donc, on commence par ça le matin. On regarde les audiences. Et après, ça dépend un petit peu des projets du moment. Les opérations éditoriales, il y en a un peu tout le temps. Donc, généralement, c'est moi qui les reçois. En fait, c'est toujours validé par l'équipe globale pour assurer une certaine cohérence, finalement, dans le produit, dans l'application, en termes de wording, en termes d'image, en termes de contenu qu'on souhaite mettre en avant pour le public qu'on vise. Donc, je regarde ça, j'en discute avec les équipes locales, on affine le plan ensemble, puis après, voilà, on met en place les opérations qu'il faut mettre en place. Après, on peut aussi recevoir des pitchs pour des productions originales. On peut avoir envie de faire évoluer le produit sur, je ne sais pas, un algorithme ou un outil. Donc, voilà, un peu en fonction des priorités du moment, je travaille là-dessus.
D'accord. Ouais, donc, un rôle très transverse, finalement, transversal.
Très transverse, ouais. Complètement. Et toutes les semaines, on a un point, on a au moins un point avec chaque équipe locale, chaque marché, où on passe en revue où est-ce qu'on en est en termes voilà, de catalogue, quelles sont les dernières nouveautés, les dernières tendances, quelle pourrait être la prochaine opération éditoriale qu'on fait, les productions originales évidemment, et puis aussi le plan de promotion à court terme.
Il y a un article, tu parles de la technologie, du produit, de faire évoluer le produit. Il y a un article que je suis sûre que tu as vu toi aussi, je crois que c'était dans Le Monde, il y a quelques jours, qui est sorti, où Deezer affirmait vouloir se concentrer davantage sur sa technologie. Et du coup, je me demandais, est-ce que, bon, sans bien sûr dévoiler de secrets de fabrication, est-ce que tu peux nous expliquer en fait, un peu plus en, fait, en quoi consiste la technologie de Deezer?
Oui, complètement. Chez Deezer, la technologie, c'est vraiment dans l'application, quelles sont les fonctionnalités qu'on va proposer aux utilisateurs. Donc, c'est par exemple, côté musique, il y a le Flow, qui est un algorithme de recommandation, voilà, qui est basé sur vos écoutes, mais qui va aussi vous faire découvrir des choses que vous pourriez aimer, des nouveautés. Et une des spécificités de ce Flow, justement, c'est que c'est illimité. Vous pouvez écouter pendant des heures si vous le souhaitez. Et ça, c'est quelque chose qui est assez différenciant par rapport à d'autres plateformes de streaming. Donc ça, ça va être une grosse fonctionnalité qui va faire vraiment partie de l'identité de marque de Deezer et qu'on va chercher à développer, à améliorer. Voilà. Après, sur la partie podcast, ça pourrait être, oui, des algorithmes de personnalisation aussi. Ça pourrait être le fait qu'il y ait un onglet podcast. Ça pourrait être le fait de pouvoir accélérer la vitesse de lecture, ce genre de choses. Après, c'est vrai que Deezer, dans son ADN, reste une boîte très tech. Ça l'a toujours été. Donc, c'est vrai que dans cet article, je pense qu'ils ont explicité le fait qu'ils souhaitent vraiment plus investir sur des nouvelles fonctionnalités ou des fonctionnalités innovantes ou les développer pour renforcer cet ADN. Après, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va être exactement. Hein. Ça reste à inventer. Les équipes travaillent dessus. Mais voilà, c'est un peu l'idée.
C'est une boîte de combien de personnes à peu près maintenant, Deezer?
Ah, on est plus de 600 quand
d'accord.
même.
D'accord, ah ouais, grosse boîte.
615 personnes.
D'accord. Mmh. Donc combien basé en France?
En France, le siège social est en France, donc ça aide beaucoup.
Ouais, c'est ça.
Au siège, on est au moins 300.
Ah ouais, d'accord, une bonne 300, moitié. 400. Quoi. Ok. Mmh. Tu parlais d'un truc dans la vitesse d'écoute. Il y a quelque chose en fait, que j'ai remarqué, que tu as peut-être toi aussi remarqué. Les gens qui travaillent dans le domaine du podcast et qui doivent en écouter du coup beaucoup pour le travail, il y a énormément de gens qui les écoutent en accéléré. Tu fais partie de quelle équipe, toi?
Non, moi, j'écoute en mode normal. Ça m'arrive de sauter de 15 secondes ou 30 secondes ou de revenir en arrière parce que j'ai loupé un passage. Mais non, j'écoute plutôt en vitesse normale. Je sais qu'il y a des auditeurs qui aiment bien accélérer aussi, voilà, parce qu'ils consomment beaucoup de contenu, mais moi, je ne fais pas partie de cette équipe-là.
Ah, j'ai essayé, j'avoue que je trouve ça épuisant, en fait. C'est fou.
Oui, c'est ça, je trouve qu'il faut être très concentré.
Exactement.
Finalement. Alors, à moins que la personne parle particulièrement lentement, je trouve que. Ouais. Mais bon, c'est une question de goût, hein, personnel.
Je voudrais revenir sur les algorithmes de recommandation, parce que c'est aussi un élément important pour la découvrabilité d'un catalogue. Et il y a beaucoup de méconceptions sur comment ça fonctionne. Alors après, bien sûr, chaque plateforme conçoit ses algorithmes à sa manière. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même moins de critères que si c'était une curation manuelle, a priori. Et que le but d'un algorithme, c'est qu'il se base sur les usages, sur ce que les gens ont écouté, et qu'il personnalise la sélection finalement qu'il va faire. Donc ça donne une possibilité aussi à des podcasts plus petits ou à des podcasts un peu plus niche en termes de sujets. Ça leur donne la possibilité d'émerger quand même sur la page d'accueil d'un utilisateur si jamais il a des goûts, semble-t-il, similaires. Je m'explique. Les goûts similaires, c'est souvent, on a pu faire différents tests où on se base soit sur les informations qu'il y a dans le contenu, donc la description, les métadonnées, ça c'est une chose. Soit on peut aussi se baser tout simplement sur les audiences partagées. Donc par exemple, mettons un auditeur qui va écouter transfert et profil. Eh bien, si un autre auditeur écoute profil, on peut potentiellement lui recommander aussi transfert. Et en fait, on va développer des modèles comme ça, où en fait, si sur un gros groupe de personnes, ils ont toujours un podcast en commun, ou deux, on va recommander les autres podcasts de leur bibliothèque aux autres. Bon, je schématise, je simplifie un petit peu, mais globalement, c'est cette idée-là. Et ça, ça fonctionne très bien, et ça peut donner la possibilité à, par exemple, un plus petit podcast comme le podcast Canal 16 de la SNSM, ça peut lui donner la possibilité d'émerger auprès des auditeurs de transfert, par exemple. Donc ça, c'est un levier à garder en tête. Et finalement, aussi, c'est important de savoir que ces algorithmes-là, les plateformes n'ont pas forcément la possibilité de rajouter du contenu dedans, dans le sens où elles choisiraient de mettre un podcast en particulier en tête de liste. Ça, je pense que c'est un peu une méconception qui est assez répandue, mais c'est pas le cas. Après, c'est vrai que généralement, sur les applications, il peut y avoir un mix, c'est-à-dire qu'il y a une section, ça va être complètement personnalisé, une autre section, ça va être effectivement une sélection manuelle qui a été programmée par la plateforme, et une autre section, ça va être du chart pur et dur. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui est quoi, mais globalement, à partir du moment où on dit que c'est pour vous, c'est conçu spécialement pour vous, normalement, c'est un algorithme, et voilà, vous n'aurez pas, sûrement pas le même résultat, vous en tant qu'utilisateur, qu'un autre utilisateur. Et donc ça, c'est un gros avantage et c'est un levier de découvrabilité aussi pour les plus petits podcasts. Et s'il faut vraiment revenir sur les contenus qui ont les mêmes descriptions en apparence, la même thématique, nous, on s'est rendu compte que l'information textuelle suffisait rarement à faire ressortir les bons contenus ou les contenus de qualité. Donc, voilà, ça ne suffit pas toujours. Après, la description reste importante pour les utilisateurs, pour connaître votre contenu. Nous, on s'en est rendu compte aussi parce qu'on a développé un type de carrousel sur l'application où vous pouvez voir la description directement en dessous. Et on s'est rendu compte qu'en moyenne, ces modules-là étaient quand même un peu plus cliqués parce que, en fait, vous n'avez pas besoin juste de découvrir, enfin, de décrypter une pochette. Vous avez directement la description et vous n'avez pas besoin non plus d'ouvrir la page du podcast pour savoir de quoi il s'agit. Donc, voilà, c'est un peu plus direct. Ça donne tout de suite un indice du contenu. Et c'est important de quand même soigner cette partie.
Du coup, toi, tu es beaucoup dans les coulisses du podcast, de l'équipe podcast chez Deezer, mais du podcast français en général. Est-ce que tu as déjà été tentée, en fait, de passer de l'autre côté de la console de podcast et d'enregistrement ?
De produire, ouais, ça ouais. veut dire ? Ouais, d'enregistrer ? Bah oui, en vrai, c'est mon premier enregistrement.
C'est vrai ?
Non, c'est vrai. Après, je pense qu'il faut quand même avoir un peu une idée derrière, avoir... Oui, voilà, faut avoir un petit peu travaillé son concept, son format, ce qu'on souhaite aborder. Pour l'instant, je j'en suis pas à ce stade-là. Je préfère porter le contenu des ouais. autres. Je trouve qu'il y a déjà plein de podcasts de qualité qui n'ont pas encore assez de visibilité à mon goût. Donc, pour l'instant, ma contribution, c'est ça. Mais je vais tâcher d'y réfléchir pour quand même.
Tu viendras nous en parler.
Finir par livrer quelque chose. Non, mais c'est vrai que j'aimerais bien me lancer dans cet exercice. Déjà commencé un petit peu, mais c'était vraiment des petits tâtonnements, des petits essais.
C'est vrai, raconte.
Et non, c'est vraiment... j'assume pas encore.
C'est quoi les sujets qui te font vibrer ?
Les sujets qui me font vibrer, de manière générale, moi j'aime bien tous les podcasts un peu qui traitent des sujets de société, qui apportent d'autres perspectives. Ouais, les reportages, les documentaires, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi les podcasts qui ont une autre façon de raconter les choses. Je sais pas si j'ai le droit de citer des studios, mais
je pense que t'as le droit. Hein.
Mais je parle en ton nom. Des podcasts comme ça, c'est plus flou et les connaisseurs sauront. Non, mais par exemple, oui, en termes de format un peu de société, moi j'aimais beaucoup à un moment le. Enfin, j'aime toujours hein, les podcasts comme Vivons heureux avant la fin du monde.
Ouais.
J'aime beaucoup. Émotion, splash. En termes de narration, j'aime beaucoup écouter le cinéma, les braqueurs. Bah après, c'est une production originale, mais moi, j'ai adoré Best Story Ever avec Marina Ronman.
Ah, j'ai pas lu. J'ai pas écouté. D'accord.
Bah, je recommande. C'est des vraies histoires. Hein. Pêchées sur Wikipédia. Et raconté avec tout.
Ah, j'avais lu le
pitch dont elle est capable.
Ouais, ça me dit quelque chose.
Oui.
D'accord.
Donc, elle fait plein de petits personnages, plein de bruitages. C'est hyper drôle. Et c'est vraiment, vraiment bien. C'est un petit format court. C'est très. C'est plein d'énergie. C'est très bien écrit. Je recommande.
Tu vois, on va revenir après sur la curation, qui est un sujet qui est hyper important pour les podcasteurs, notamment indépendants, qui nous écoutent. Mais toi, à titre perso, alors je sais que c'est peut-être difficile de parler à titre perso quand on parle aussi de ton employeur, mais c'est quoi le podcast que tu rêverais d'écouter? Tu vois, ton podcast idéal, qui selon toi, il y a des trucs qui n'ont pas encore été faits dans ce domaine-là, sur je sais pas, ce format, cette approche, cet angle, cette narration, enfin voilà.
Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire autour de un peu la question de la transmission, des valeurs, etc. Je trouve que, enfin, voilà, actuellement, et puis la nouvelle génération surtout est très sensible à plein de sujets de société, d'égalité, de diversité. Et puis, je pense aussi la période du Covid a soulevé beaucoup de questionnements aussi par rapport à notre façon de vivre. Ça a amené aussi beaucoup de différentes perspectives en fonction des générations.
Ah, comment ça?
Oui, par rapport à tous ces sujets, je trouve qu'il y a des différences entre la génération
ah oui,
de nos parents,
ça accentue un peu
les millennials et la génération, ouais. La Gen Z, comme ouais. On dit. Et je trouve ça intéressant en fait, d'aborder cette question de finalement la transmission des valeurs. Et d'autant plus que les gens peuvent beaucoup plus s'informer maintenant via les réseaux sociaux, via le digital hein, tout simplement. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit et il y a sûrement quelque chose à faire là-dessus sur la transmission des valeurs au sein d'une famille et comment les podcasts, par exemple, ont pu...
Générateur de conversation au sein des familles.
Oui, ça, exactement. Je trouve qu'il y a plein de formats digitaux qui ont permis de finalement d'initier des conversations que les gens n'avaient pas forcément et qui finalement font un appel à des valeurs profondes, à l'éducation qu'on a pu recevoir. Et je pense qu'il y a encore des choses à faire de ce côté-là. Je sais que Spotify avait produit un podcast avec justement des filles et petites filles
oui,
d'icônes féministes.
Avec Mary Royer, il aime, ouais.
Mais c'est vrai que je pense qu'on peut aller encore au-delà même du sujet juste féministe. Sur d'autres sujets, je pense que ça peut être intéressant. Et puis en plus, tous les formats aussi un peu de récits intimes, de témoignages, se sont pas mal développés avec des profils, des transferts. Je pense qu'il y a encore quelque chose à faire sur ce sujet-là. Voilà.
Super, ok, très bien. Eh bien, écoute, on gardera un œil.
Je vais réfléchir.
On parlait de la découvrabilité, de comment est-ce que vous découvrez de nouveaux podcasts. Tu parlais de certains podcasts qui mériteraient, selon toi, encore plus de visibilité. C'est le nerf de la guerre, hein, la découvrabilité, surtout quand on est, je pense, aux podcasteurs indépendants qui n'ont pas d'énormes budgets communication et marketing.
Oui.
Un des rêves de beaucoup de podcasteurs indépendants, justement, c'est de pouvoir être mis en valeur par une plateforme d'écoute, parmi lesquelles Deezer. Comment est-ce que Deezer procède, justement, pour la curation, pour les mises en avant? Quels sont, je ne sais pas si c'est des critères... j'imagine que c'est des critères multiples. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, bien sûr. Nous, on adorerait pouvoir tout regarder, mais malheureusement, on reçoit tellement de podcasts. Il faut s'imaginer qu'on en reçoit à peu près 20 000 par mois.
Au niveau global, pas au niveau national.
Au niveau global, bien sûr. Toute la question, c'est comment est-ce qu'on traite cette masse? Comment est-ce qu'on peut détecter les bons contenus? Donc nous, on a mis en place un outil pour essayer de... déjà pour voir ce qui arrivait et filtrer un petit peu en fonction de la langue, du pays d'origine. qui d'ailleurs sont souvent des métadonnées qui ne sont pas bien renseignées dans les CRSS. Je passe un message au podcasteur au passage. Donc voilà, après on peut aussi filtrer avec des mots-clés, ce genre de choses. Par exemple, si on est à la recherche, je ne sais pas, de podcasts de méditation par exemple, on peut aussi taper des mots-clés pour un peu filtrer tout ce catalogue entrant.
Donc des bonnes descriptions de podcasts du SEO, quoi, finalement.
Oui, c'est ça. Soit on regarde dans les mots-clés, soit on regarde dans la description. Donc bon, ça peut nous permettre de faire un peu des petits filtres. Mais sinon, c'est vrai qu'on a tellement de volume que ce n'est pas possible de tout relire et puis surtout de tout écouter. Parce que c'est bien déjà de lire un pitch, mais derrière, il faut aussi, avant de le mettre en avant éditorialement, on aime bien l'écouter quand même pour être sûr que le contenu est de qualité, qu'il correspond bien à sa description. Bon, on peut avoir des surprises parfois. Et après, effectivement, le nerf de la guerre, c'est un peu de pouvoir déjà prouver un peu une certaine audience pour que nous, on puisse aussi le détecter plus facilement, parce qu'on va regarder également tout simplement les charts.
La popularité du podcast.
C'est ça, exactement. Donc, soit on regarde par thématique. Je ne sais pas, par exemple, sur la thématique humour, on va regarder le top 100 podcast, ou on va regarder sur tout ce qui est rentré, justement, le top 100 des nouveautés sur la dernière semaine en termes d'audience. Donc, c'est vrai que généralement, c'est bien d'avoir déjà constitué une petite audience. Et après, on essaye, en tout cas, avec nos équipes locales, de pouvoir aussi être en contact avec les producteurs. C'est aussi le but d'avoir des personnes dans l'équipe. C'est de pouvoir établir un contact avec les principaux studios, les principaux médias et les principaux podcasteurs indépendants et de pouvoir engager la conversation, recevoir leur newsletter ou recevoir leur nouveau podcast. Donc ça nous aide. Et après, bien sûr, il y a aussi de la veille. Regarder sur les autres plateformes, regarder dans les newsletters. Il y a certains médias qui peuvent être prescripteurs. Ouais. Donc on fait aussi de la veille.
D'accord.
Pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose.
Donc finalement, en fait, c'est un peu comme nous. Enfin, je veux dire, tu dois taper un peu partout, à part que tu as des données sur les stats aussi, des podcasts.
C'est ça, on a quand même quelques outils. Oui, effectivement.
Alors, je me permets de te challenger un tout petit peu sur l'histoire des audiences, puisque juste au sens où, si on veut aider quelqu'un, on se dit, bon, c'est peut-être un podcast qui mériterait d'être un peu plus mis en valeur, le filtre audience est systématique ou c'est juste que ça vous permet, vous, de les faire un peu dégager de la masse, finalement, et de les détecter, finalement?
Oui, c'est ça. Nous, c'est surtout pour être sûr de ne pas louper quelque chose qui est en train de prendre, qui est en train de prendre, qui se développe.
Oui, c'est ça, mais il ne faut pas avoir de l'audience systématiquement pour être mis en avant.
Non, pas systématiquement. Ouais. Mais c'est vrai qu'il va falloir nous donner envie, quoi. Bien pitié son podcast. Et après, il y a aussi ce qui est important, c'est aussi de comprendre notre plateforme, toutes les sollicitations qu'on peut recevoir. Et puis, c'est bien aussi de se renseigner un petit peu sur la ligne éditoriale, donc de regarder, par exemple, nos pages d'accueil, les thématiques qu'on traite. Si c'est pour un pitch de production original, de regarder ce qu'on a produit jusque-là. Déjà, ça peut donner des bons indices sur est-ce que mon podcast pourrait effectivement s'aligner dans cette démarche éditoriale ou est-ce que c'est complètement
hors champ,
quoi.
Oui, bien sûr. C'est quoi, du coup, la ligne éditoriale de Deezer? Moi, j'ai l'impression, mais c'est pas le seul truc, mais que vous faites beaucoup de comédies par rapport à d'autres plateformes.
Alors, sur la partie production ou sur...
Ouais, enfin, production, remarque, je pensais à ça, mais ouais, du coup, je suis intéressée par la réponse de manière générale aussi.
Alors, donc, sur la partie production, effectivement, on a même commencé par de la comédie.
Ah ouais.
Notre deuxième... Bah, en tout cas, en France, le deuxième podcast qu'on avait produit, c'était avec Thomas VDB. Puis, on a fait pas mal de formats avec Brain Magazine. Mais effectivement, l'humour, ça s'inscrivait dans une démarche un peu de divertissement. C'était ce qu'on cherchait avec nos productions originales. Et essayer de proposer un contenu un peu pop culture. Donc voilà. Après, on a essayé de le croiser avec d'autres thématiques, avec la musique, par exemple. On a fait Hit Story avec Eric et Quentin.
Ouais.
De la culture générale, un petit peu. On a fait ça, du coup, avec Best Story Ever, avec Marina Rollman. Donc, on peut aussi croiser les thématiques. Mais effectivement... il y avait cette démarche un peu de divertissement. Et plus récemment, un peu moins, parce qu'on aimerait bien se recentrer plus sur la thématique de la musique, renforcer encore plus cette expertise-là. Donc, il faut voir comment ça s'articule dans la production. Et après, sur le reste, du coup, de l'application, parce que c'est important aussi le catalogue et puis tout simplement comment est organisé le contenu dans l'application. donc tout ce qu'on appelle plus éditorial chez nous, c'est plus généraliste pour le coup, parce qu'on sait que ce n'est pas forcément la thématique qui fonctionne le mieux, et on a envie de continuer à adresser le public qu'on a. Hein. On ne veut pas les laisser tomber. Donc là, on va rester encore une fois un peu plus dans le divertissement, mais on va essayer d'aller toucher un petit peu tous les groupes d'âge. On va essayer de mettre en avant des sujets un peu qui sont d'actualité. Par exemple, s'il y a le mois des fiertés, on va faire une opération pour le mois des fiertés. Mmh. En plus, ça fait partie de nos engagements même en interne.
D'accord.
Donc après, ça dépend aussi des opportunités. Mais éditorialement, on va avoir une approche un peu plus généraliste.
Mmh. OK.
Mais c'est vrai qu'on... Par exemple, on ne va pas forcément aller sur de la niche. On reste assez grand public. On a essayé de traiter certaines thématiques comme le gaming, par exemple. En vrai, le sport et le gaming, ce sont des gros, gros marchés. Mais sur le podcast, pour l'instant, éditorialement, ce n'était pas forcément ce qui nous a ramené le plus d'audience. Ce n'est pas forcément ce que les auditeurs recherchaient le plus, en tout cas chez nous. Bon, après, il y a toujours des exemples comme l'afterfoot, etc.
Ouais.
mais voilà.
Tu m'as parlé de ton podcast idéal, des choses qui, toi, te donnaient envie ou des choses que tu aimerais pouvoir entendre. Pour l'équipe podcast, puisque vous avez, j'imagine, des valeurs communes, c'est quoi un bon podcast chez Deezer ?
Un bon podcast, je pense que c'est... déjà, quand on te le pitch, tu as envie de l'écouter tout de suite. Il t'intéresse. Après, ça peut être aussi les qualités de storytelling de la personne. Mais oui, je pense que c'est un podcast que tu as envie de recommander à quelqu'un d'autre, de réécouter ou d'écouter, au moins écouter la suite. Je pense que c'est essentiellement ça, notre critère. Et généralement, nous, pour tous les projets de production de pitch, finalement, le producteur, il est rarement seul. Finalement, on en parle toujours à 3-4. On en parle aussi avec les autres pays. Et puis, on voit comment chacun réagit par rapport au pilote, par rapport au pitch. Donc, c'est souvent une décision quand même un peu collégiale pour sélectionner les projets.
D'accord.
Mais effectivement, je pense qu'un bon podcast, oui, c'est un podcast qu'on a envie de continuer à écouter, qu'on a envie de recommander à ses amis, sa famille, à ses collègues, et dont on va avoir envie de parler.
Ouais, le pouvoir de la recommandation, en fait. Si tu as envie de le recommander à quelqu'un d'autre, si tu as envie de te jeter un petit peu dessus.
Oui, et puis en plus, ce format a vraiment cette particularité-là de pouvoir être assez, finalement, intime et de pouvoir aussi générer des conversations. Ça va beaucoup marcher, je trouve, aussi par le bouche à oreille. Moi, je sais qu'il y a plein de podcasts que j'ai découverts comme ça.
Aussi, ouais.
Il y a un peu cette particularité-là, ouais, je trouve, dans ce format.
Est-ce que tu te souviens du dernier podcast-là que tu as écouté, que tu as bingé ? Attention, elle sort son téléphone, elle va vérifier.
C'est ça, exactement. Mais j'en écoute tellement tout le temps que parfois j'oublie un petit peu. Alors j'espère que ça ne va pas altérer trop l'enregistrement. Le dernier que j'ai bingé... Ah, c'était... c'est encore un projet original, pardon. C'était Raconte-moi une bêtise.
Ah oui, je savais pas que c'était une exclue Deezer.
Et bah, ça l'est devenu.
D'accord.
La nouvelle saison. Okay. Et donc, c'est des personnalités qui racontent une de leurs bêtises. C'est assez drôle. Et donc, c'est un format très court, donc ça se binge bien. Et sinon, récemment, j'ai écouté 1 euro la minute, Profil, Émotion. Ah, là, vous allez vous moquer, mais... j'aime beaucoup c'est un podcast du Cross qui est de la SNSM plutôt, qui raconte
exactement. Génial ce podcast, il est complètement addictif. J'adore, je le recommande depuis l'été dernier, je le recommande à tout le monde.
C'est ça, et il raconte un peu leur sauvetage, les plus emblématiques. Enfin, du coup, j'ai même pas besoin de t'en parler.
C'est Jeanne-Marie Desnos qui fait les interviews. C'est très 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 bien fait, très bien réalisé.
Et j'aime bien. Mais moi-même, en fait, je navigue beaucoup. Et donc, déjà, c'est intéressant. Et puis, c'est vrai que c'est des histoires un peu dingues.
Ouais, complètement. Alors, quel est le podcast que tu as le plus recommandé autour de toi, peut-être, depuis le début de l'année ? Tu as le plus partagé ?
Depuis le début de l'année ? Alors, ça dépend, parce que souvent, les gens qui me demandent des recommandations de podcasts, c'est des gens qui commencent seulement à en écouter. Et donc, ils ne savent pas forcément par quoi commencer.
Ah ouais, OK.
Et donc, pour les rendre addicts...
Grosse responsabilité de trouver le bon truc qui va les accrocher.
Et ben en vrai, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu le tester une fois en voiture avec des amis et quand j'ai vu à quel point ils étaient accros, je me suis dit ah, celui-là il est pas mal, je vais le garder en en guise de starter kit. C'est les braqueurs adaptés radio.
Tu veux expliquer un peu le concept?
Alors bah c'est des portraits de braqueurs, hein, de grands braqueurs qui racontent leur addiction au braquage, leur mode de vie et ils te racontent ça sans aucun complexe, hein. Donc c'est assez fou. Et donc, ils sélectionnent, il y en a 3-4, il me semble. C'est découpé en plusieurs parties. Et c'est des sacrés personnages qui racontent leur histoire. Et c'est vrai que c'est assez inédit.
C'est complètement inédit.
Pas forcément accès à ce genre de personnes dans la vie normale. Et donc, c'est assez génial.
Du coup, toi, t'es plutôt série, podcast court, podcast long. Est-ce que t'as une préférence?
Non, pas vraiment. Ça dépendrait un peu du moment, du temps que j'ai. Mais parfois, je peux me passer des samedis matins entiers à écouter plein de podcasts, plein de nouveautés. Donc, je peux me faire comme ça 3-4 heures d'écoute d'un coup. Parfois, ça peut être des formats courts, mais non, j'ai pas trop de préférence en termes de format. Après, 2 heures d'épisode, je trouve que ça peut être long. Ça peut être bien sur des formats longs d'interview. Mm-hmm. Ça peut être intéressant, mais il faut avoir le temps.
Ça s'écoute en plusieurs fois, quoi.
Voilà. Ça, typiquement, peut-être que j'accélérerai un jour la vitesse de lecture.
Et dans tes préférences, j'ai l'impression que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, où tu disais que t'aimais beaucoup le documentaire, le reportage. Du coup, t'es plutôt réel que fiction?
Oui, complètement.
Ouais.
Complètement. La fiction, j'ai pas encore trop adhéré. Après, cela dit, j'ai bien aimé 1 € la minute. Mm-hmm.
Tu veux le décrire un peu aussi? Je l'ai pas écouté, moi.
Ah, tu l'as pas encore écouté? Ah! Alors, comment est-ce que
alors, vas-y, pitche-moi.
Sans spoiler. Je passe de l'autre côté, c'est à moi de pitcher les podcasts maintenant. Alors, oui, 1 € la minute, bah, c'est l'histoire d'une femme, d'une mère de famille qui se retrouve sans emploi et qui, à la base, elle est commerciale. Et en fait, on lui propose de faire du téléphone rose, d'où le titre 1 € la minute. Et donc, elle va se lancer là-dedans, sauf que, évidemment, sa famille va finir par s'en rendre compte, etc. Donc ça va raconter tout ça. Et ils ont un joli casting. Ils ont Céline Salette. Qui d'autre ils ont? Ah bah, j'ai oublié. Mais j'étais assez surprise. C'est très bien joué. Et j'ai pas mal rigolé aussi.
D'accord. Super.
Il y a des moments pleins d'humour. Typiquement, je sais pas si je serais allée le voir au cinéma. Mm-hmm. Pardon, Gaumont. Mais je trouve qu'en audio, ça passe très bien. Et bah, comme c'est vraiment du téléphone rose, il y a cet aspect, le fait de mettre l'accent comme ça sur l'écoute audio, finalement, est hyper smart, je trouve.
Qui est-ce que tu aimerais entendre dans Génération Podcast? Qui est-ce que tu aimerais découvrir un petit peu de l'autre côté du micro?
Ah, c'est une bonne question. Les concurrents. Non, je plaisante. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir des journalistes radio qui se sont mis à développer des hors-séries ou des formats spécialement pour le natif. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir leur regard, parce qu'eux, ils viennent plus de la radio, du média traditionnel. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir leur perspective sur le podcast. Et après, non, je pense que ça pourrait être bien aussi d'internationaliser peut-être un petit peu, parce que je trouve que du côté, bah, toi-même, tu sais, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, c'est assez inspirant, je trouve, ce qu'ils font. Ils ont quand même un peu quelques années d'avance, le marché plus mature. Donc, ce serait intéressant, je pense, aussi d'aller discuter avec
eux. Ah oui, non, mais complètement. Alors, du coup, je te le dis parce que tu n'as pas... On est au mois de juillet, au moment où on enregistre ça, le 14 juillet.
Oui.
La saison 3... s'internationalise et donc on va avoir des épisodes aussi qui seront en anglais puisqu'on peut pas s'attendre à ce que tout le monde nous parle français mm-hmm. Et donc j'ai commencé les enregistrements et l'objectif de la saison 3 c'est de ne pas se concentrer que sur la France mais garder quand même la France comme terrain de jeu mais d'aller voir en fait un petit peu ailleurs ce qui se passe.
Bah écoute, moi j'y adhère en tout cas. Si je peux t'aider parce que du coup
carrément.
J'ai quand même quelques contacts aussi là-bas.
Camille, c'est quoi, c'est un peu la question à 10 milliards, mais c'est quoi les tendances podcast pour, je ne sais pas si on peut parler des années à venir ou même ne serait-ce que voilà, pour cette fin d'année, cette deuxième moitié d'année 2022?
En France, oui. Bah, en termes de production, on voit de plus en plus de podcasts faits par des influenceurs. Mm-hmm. Des gens qui viennent plus des réseaux sociaux à la base. Pas mal de, un peu de, sous forme de, soit d'interviews un peu autour du, finalement, du développement personnel, comment est-ce que toi tu abordes telle situation, ce genre de choses. Soit des récits plus intimes, presque comme des, comment on appelle ça déjà, des journaux intimes. Donc, on a vu, ouais, il y a Anna RVR, NoSPF avec Alaya. Je sais pas si ça dit quelque chose parce que, je suis pas sûre qu'ils soient écoutés aux États-Unis. Donc c'est vrai qu'on voit de plus en plus de formats comme ça arriver et qui trouvent quand même une audience. Après, je pense, bon, ça fait un petit moment déjà, mais de plus en plus aussi de YouTubeurs se mettent au podcast ou commencent à distribuer leur format, en tout cas, leur émission sous le format podcast. Donc c'est un petit peu ça, les deux tendances principales que je vois en termes un peu de création.
Et les podcasteurs, on nous invite de plus en plus à le faire dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire à distribuer sur YouTube, oui, également les épisodes.
En plus, YouTube a un petit peu annoncé qu'ils allaient peut-être se mettre sur le sujet, donc c'est vrai que ça peut devenir une plateforme de diffusion intéressante. Je serais curieuse de voir comment ça se développe. Oui. Et puis, quelle est la différence finalement entre une vidéo YouTube, au format YouTube auquel on peut être habitué, et un format podcast sur YouTube. Ça, je pense que c'est... Ouais. Mais bon, il n'y a peut-être pas de réponse. Hein, c'est peut-être... Et non, donc ça, en termes de tendance un peu de création, et après, en tendance d'écoute, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que la radio perdait un petit peu d'audience. Donc le natif arrive quand même à aller un petit peu prendre des parts de marché. Et sinon, en tout cas, nous, on s'est un petit peu intéressé à la génération un peu plus jeune suite à différentes études de marché récentes. Et on voit que la génération, la Gen Z, écoute de plus en plus des podcasts, alors que c'était moins le cas avant. Avant, le cœur de l'audience, c'était plus les 25-35. Et là, l'audience commence à se rajeunir un peu. Et donc, cette jeune audience, elle est très intéressée, du coup, par les sujets de société. Et puis, nous, ce qu'on voit, en tout cas, sur notre application, c'est qu'ils recherchent aussi plein de contenus de méditation pour dormir, pour aller bien, donc autour de la santé mentale, le bien-être, ou pour tout simplement aborder ils ont des questions personnelles, mais ils vont peut-être pas aller oser en parler. Et donc, en fait, ils vont aller chercher des réponses par les podcasts. Donc, ils vont aller chercher leur sujet dans les épisodes de podcast. Voilà.
Oui, donc ils utilisent leur appli de podcast comme Google.
Un petit peu.
Voilà. Pour trouver des réponses.
C'est un petit peu ce qu'on observe.
Est-ce que tu aurais un conseil pour, des podcasteurs indépendants, justement, qui se lancent, soit en tout cas aimeraient... rendre leur travail un peu plus visible?
C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est pas une à faire, mais la cross-promotion, essayer d'être invité dans d'autres podcasts qui ont un peu les mêmes cibles, les mêmes audiences, ou qui développent un peu les mêmes thématiques. Je pense que ça peut bien fonctionner. Comme la technique du featuring en musique,
ouais, c'est
finalement,
vrai.
Mais qui marche bien. Et qui est une façon aussi d'adresser déjà une audience qui connaît déjà le podcast, qui écoute déjà des podcasts. Voilà. Après, bien sûr, il y a les réseaux sociaux. Je pense que ça reste un gros outil de recommandation, mais c'est vrai qu'il faut réussir à percer. Ça peut prendre du temps. Donc, je pense qu'il faut être quand même régulier dans le contenu qu'on poste, dans la publication de nouveaux épisodes. Et je pense que le plus important, c'est de bien introduire, en fait, son contenu, de pas hésiter à mettre du texte, à sélectionner des citations ou des passages un peu clés, montrer des petites vidéos de l'enregistrement. Voilà, donner un petit peu des petits indices sur qu'est-ce qu'il y a dans le podcast. Donner un petit peu des petites previews. Ça, je pense que c'est assez important. Un morceau de l'épisode qui est révélateur de ce qu'il y a derrière, qui va donner envie. Parce que finalement, je pense que les gens, ils ont besoin d'avoir envie avant de commencer à lire vraiment un épisode et de l'écouter jusqu'au bout. Voilà. Et après, la construction de l'épisode, je pense, reste importante. Faut pas les perdre dès le départ. Mais bon, ça, je pense que je répète des choses qui ont déjà été dites mille fois. Mais moi, je conseillerais, oui, de faire de collaborer avec d'autres podcasteurs et puis de voilà, quand même soigner son rythme de publication, sa présence sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est des choses importantes. Et après, pour développer son audience, bah, qu'ils n'hésitent pas à essayer de contacter les plateformes. Mais c'est vrai qu'on reçoit quand même beaucoup de sollicitations. Donc, l'idéal, c'est d'avoir déjà quelques épisodes et puis de bien expliquer aussi son
concept,
son projet. Mmh. Voilà.
Mmh. En voilà des bons conseils actionnables.
Oui. Tu trouves ? Tant mieux.
Et je voudrais juste ajouter quelque chose sur l'importance de la description du podcast. C'est le fait que nous, on a pu le tester en fait dans notre application. On a créé des carousels qui montraient la description du podcast en dessous par rapport à des carousels qui montreraient que la cover. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était quand même en moyenne davantage cliqué. Parce que les gens, tout de suite, ils ont quelque chose qui va leur donner plus d'indices sur le contenu. Donc, ça va les encourager à cliquer. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important d'écrire une bonne description et d'éviter que ce soit complété automatiquement par votre plateforme d'hébergement. Que ce soit pas rempli. C'est important. Voilà. Après, les algorithmes peuvent prendre en compte aussi ces informations textuelles, même si les tests qu'on a faits ont pu montrer que c'était pas toujours suffisant en termes de quantité d'informations et que aussi certains en faisaient un mauvais usage. Donc, nous, on s'est un petit peu écarté de ce modèle-là. Mais ça reste important pour un premier contact visuel, on va dire, avec l'utilisateur.
Pour terminer, je te demanderais bien, c'est quoi le futur pour toi ? À quoi est-ce que tu aspires côté podcast ? Qu'est-ce qui te fait rêver ? Qu'est-ce qui te fait un peu vibrer pour, je sais pas, un futur plus ou moins lointain ?
Déjà, moi, je trouve ça hyper intéressant, toute la partie développement de l'IP, donc, c'est-à-dire développer son format au-delà de juste l'enregistrement, finalement, et la diffusion sur les plateformes, d'aller faire des captations live, ou des enregistrements publics, en fait, tout simplement. C'est plutôt ça, en fait, d'aller enregistrer, de pouvoir rencontrer son public aussi. Je pense que ça peut avoir vraiment un gros effet boule de neige. De sinon développer dans d'autres formats, dans le livre, dans le théâtre, dans l'audiovisuel. Ça, on l'a vu un petit peu émerger aux États-Unis ou au Royaume-Uni, mais je trouve que c'est hyper intéressant de développer sa marque, en fait. Ça, moi, je trouve ça assez passionnant et je pense que ça va arriver au fur et à mesure en France. Ça a un petit peu commencé avec Wondery, avec iHeart et Energy. Avec Energy, ils ont fait des coproductions. Donc, souvent, j'ai l'impression que c'est quand même des formats qui ont été créés par Energy. Mais il y a quand même cette idée d'avoir une synergie et de pouvoir adapter quelque chose qui fonctionnait déjà en France ou aux États-Unis, de l'adapter dans l'autre langue.
Il y a une comédie d'ailleurs de Paradiso qui a été lancée sur, c'est quoi, Conference Call ? Conf Call ?
Oui.
Qui a été lancée sur Deezer,
bah oui,
et qui vient de le festival de Tribeca vient de lancer,
oui,
une catégorie audio et l'adaptation américaine fait partie des,
oui,
des nominés, c'est ça ?
Oui, complètement, complètement.
Ouais.
Mais
ouais,
oui, je trouve ça hyper intéressant. Et, le futur, il y aura d'autres expérimentations là-dedans.
Mmh.
Et après, je pense que le futur, c'est évidemment de pérenniser les business models. Parce que ça reste quand même important pour la survie du format.
Bien sûr.
Pour l'instant, ça se développe beaucoup autour de la monétisation publicitaire, mais on a vu émerger depuis un an des tests, des expérimentations sur de l'abonnement premium. Donc, je suis curieuse de voir ce que ça va donner au final. Et puis aussi, en termes de politique publique aussi, si quelque chose va émerger. Voilà, il y a le syndicat du PIA qui travaille sur la question d'aide à la création. Donc voilà, comment finalement tout ça va s'orienter pour pérenniser le modèle et voilà, je pense que ça reste encore en construction.
Eh bien écoute, on suivra tout ça avec beaucoup d'intérêt, on fera peut-être un épisode là-dessus d'ailleurs directement. Merci beaucoup Camille.
Ouais, je t'en prie, merci à toi une fois pour l'invitation.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout et un immense merci à Camille pour sa disponibilité et cet échange. Je vous mets dans les notes de l'épisode le lien et le mail pour pitcher vos épisodes à Deezer, à utiliser avec parcimonie, vous l'avez compris. La transcription de cet épisode est disponible sur le site internet du podcast www.écoutegenerationpodcast.com. La semaine prochaine, c'est un format un peu spécial que je vous proposerai en compagnie de mon acolyte podcastique Zu. Je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que j'espère sincèrement vous retrouver jeudi prochain. Allez, bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles découvertes podcastiques.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.